Les rendez-vous de l'UNIS, en partenariat avec Axéo Drieux-Combaluzier et Bâti Santé sur Radio Immo.
Et bonjour à tous, bienvenue en direct du pavillon Dauphine, toujours en direct pour les rendez-vous de l'UNIS, numéro spécial avec l'Assemblée Générale de l'UNIS Île-de-France Grand Paris qui s'est tenue il y a quelques instants. Et puis on va en parler, l'actualité de cette journée, de cette soirée, la remise du rapport sur le fameux statut du bailleur privé par les deux députés qui étaient en charge, le député Cosson et le député Daubresse, à la ministre du Logement, Valérie Létard. Alors pour en discuter, j'ai trois invités. Anne-Glemmer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée du Finistère. Danielle Dubrac, bonjour.
Bonjour.
Présidente de l'UNIS. Et Henri Buzy-Cazot, bonjour. On ne vous présente plus, grand monsieur de l'immobilier, président de l'IMSI.
Par la taille, c'est pas faux.
Oui, c'est vrai. Aussi alors, par la taille, bon. Mais pas que. Alors justement, un petit mot peut-être sur ce rapport. Henri, alors ce rapport qui était attendu, ce statut du bailleur privé qui était attendu depuis plusieurs années, l'UNIS ça fait des années qu'il travaille dessus. Voilà, un petit mot peut-être à chaud, une petite réaction là. Alors,
une petite rectification par honnêteté, c'est un député, Michael Cosson, qui l'a co-rédigé, co-signé avec un sénateur.
Ah, c'est d'accord, oui, Daubresse est sénateur.
Daubresse est ancien ministre.
Vous avez raison de me reprendre.
Marc Daubresse a été député, oui. Il est aujourd'hui sénateur.
Il était ministre du Logement aussi.
Bien sûr, bien sûr. Donc deux parlementaires qui ont travaillé à marche forcée. Alors ce rapport, en effet, il vient, je dirais, synthétiser à un moment clé, puisqu'il s'agit de préparer le projet de loi de finances pour 2026, dans lequel il est souhaité qu'il y ait ces dispositions fiscales. Il vient synthétiser des années de réflexion. Il y a eu beaucoup d'autres rapports très sérieux. Le Conseil national de l'habitat, dont la présidente est avec nous, a rendu un rapport il y a quelques 3 ans sur le sujet. Mais les travaux du Conseil national de la refondation pour le logement ont évidemment également plancher là-dessus, les fédérations souvent chacune en leur sein. Bref, ce travail de synthèse, moi je crois pouvoir dire, mais d'autres voix vont s'exprimer, qu'il est très bien fait, qu'il est très sérieux et qu'il a quand même il porte deux innovations incroyables. Il inverse le discours sur l'investisseur. Ça fait 7 ans, 8 ans qu'on entend que l'investisseur est stérile dans l'économie. Là, c'est pas ça qu'on dit. On dit qu'il est précieux pour l'économie. Et deuxièmement, on dit que c'est un entrepreneur puisqu'il est introduit une mécanique fiscale à son profit qui est l'amortissement que tous les entrepreneurs connaissent. Voilà, il y en a autour de cette table. Donc, un travail remarquablement bien fait. Maintenant, la suite...
Alors, on va en parler dans quelques instants.
Va être importante puisqu'il s'agit que ça devienne une loi. On n'est pas encore à ce stade-là. Ouais. Mais voilà mon appréciation
Oui, parce immédiate. Que je le rappelle à nos auditeurs, pour l'instant, ce n'est qu'un rapport qui a été rendu. Alors, ce constat, vous l'avez dit, ce rapport est basé sur un constat. Il y aurait plus de logements à louer s'il y avait plus de propriétaires prêts à investir. Ça part quand même de ça, Daniel.
Absolument, parce qu'aujourd'hui, le marché est bloqué. Il n'y a aucun encouragement pour l'investisseur privé pour pouvoir faire des travaux, pour pouvoir louer. C'est difficile de louer. Oui. Il y a des taxes supplémentaires, il y a des normes, etc., etc. Et donc, du coup, là, on encourage l'investisseur. En plus, il n'y a pas d'obligation de montant de loyer. C'est vraiment nu ou meublé. Et donc, on amortit son bien. Ça veut dire qu'on déduit de son revenu imposable une partie de la valeur du bien. Donc, ça, c'est très intéressant. Alors, nous, on pensait que le 9... allait effectivement être présent, c'est vrai, c'est 5%, on pensait même que c'était plutôt 4% d'amortissement sur 20 ans, mais on avait peur que l'ancien soit sacrifié, et alors pas du tout, pas du tout.
Mais ça, c'est la grande surprise, parce que c'est vrai que...
C'était une grosse interrogation. Ouais. On savait que c'était pas sur le stock, que c'était sur le flux, donc effectivement, c'est les mutations à partir du 1er décembre 2025, cet amortissement s'appliquera. Sur l'ancien, on parle effectivement de bénéficier d'amortissement. Si on fait 15% de travaux, la nature des travaux, j'ai pas compris si c'était rénovation ou réhabilitation ou amélioration. Bon, peu importe. Enfin, quand même, si c'est 300 000 euros, ça fait 45 000 euros de travaux. Donc, je pense qu'il y aura tous les travaux. Et là, c'est 4%. Et il peut y avoir un suramortissement si on loue à des valeurs en dessous du marché. Donc, franchement, chapeau.
Donc, c'est
maintenant, est-ce que Bercy va y aller? Est-ce que Bercy va être au pied du mur? Est-ce qu'ils vont y aller? C'est maintenant ou jamais, parce que ça fait consensus, tout le monde est content, il y a aussi d'autres dispositions, mais franchement, chapeau. C'est très pragmatique et c'est surtout un statut pérenne, c'est-à-dire que c'est pas un truc one shot, on va déduire et puis le lendemain, il y aura une autre loi de finances qui va être rectificative et qui va mettre tout à plat. Là, c'est vraiment le statut pérenne. Ça, c'est vraiment...
Et est-ce que ça va s'adresser juste à la bonne cible? Parce que bon, le rapport souligne que 70% des bailleurs n'ont qu'un seul logement. Est-ce que c'est les Français que vous voyez l'investissement locatif?
Je pense que c'est ça qu'on vise. On vise ça. On vise aussi pour l'acquisition, que ça fasse rentrer de la TVA. Pour l'ancien, que ça fasse rentrer des droits de mutation. Non, c'est celui qui a à sécuriser sa transmission de patrimoine pour ses enfants, sécuriser sa retraite, etc. Bon, il a de quoi acheter un logement, deux logements. Pas forcément plus. Ça, c'est vraiment formidable. C'est vraiment une opportunité. Et il faut surtout pas la lâcher. Donc, c'est pour ça que on va bien voir ce que va faire Bercy. Bon, toujours un peu interrogatif. En tout cas, là, le travail est fait. Il y a une volonté vraiment de la part de tout le monde autour de la table. C'était tout à l'heure à 17h.
Madame la députée, alors je rappelle que vous êtes à l'origine de la loi Lemeur, notamment sur la fiscalité locative. Est-ce que vous partagez ce même sentiment que ce rapport va assez loin? C'est ce que vous attendiez?
Oui, c'est un rapport en fait qui... Au-delà de mettre le pied dans la porte, il met vraiment en avant tout ce qui se dit depuis des années. Ouais. Depuis des années, en fait, on sait qu'on a besoin des investisseurs, peu importe leur niveau d'investissement. Tout investisseur est bon à prendre actuellement. Donc, du coup, là, on voit que le rapport, en fait, il élargit en fait le spectre de l'investisseur aux petits investisseurs comme aux gros investisseurs. Et c'est quand même un gros intérêt actuellement que de porter ce projet-là. Et ce que j'aime aussi dans ce rapport, c'est que ils intègrent la notion que certes, quand on investit, ça peut être un coût si on met en face des amortissements, mais derrière, c'est aussi des recettes de l'État. Et bien ça, sûr. On oublie souvent de le dire, ce sont des recettes en termes de TVA, mais aussi en termes d'emploi. C'est-à-dire que derrière, ça génère des emplois qu'il ne faudra plus, du coup, soutenir par des allocations chômage ou autre. Donc ça, c'est quand même un point qui est très intéressant.
C'est d'ailleurs ce qui est souvent reproché à Emmanuel Macron, au président de la République, de pas voir ces sources de revenus pour l'État. Comment vous l'expliquez, ça, d'ailleurs?
Alors, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que quand on a une dynamique bancaire ou une dynamique de réalité de terrain, la dynamique de réalité de terrain, elle prend en compte réellement les emplois locaux. Mmh. Elle prend en compte aussi une économie locale. Moi, je le dis souvent, chez moi, je suis sur un territoire où on a effectivement, en fait, besoin de recruter parce qu'on a un taux de chômage assez bas. Et derrière, en fait, on a des gens qui ne viennent plus travailler chez nous par défaut de logement. Et ben là, on se dit, ben, si on continue à investir dans le logement, et ben, ces personnes-là, on pourra les recruter, avoir du logement chez nous à tout niveau. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'investisseurs qui sont des petits propriétaires, notamment en Bretagne. Beaucoup sont propriétaires, effectivement, sur leur lieu de vie. Donc, du coup, ceux-là, on va pouvoir les rassurer, leur dire, on pourrait continuer à investir. Alors, je ne peux pas expliquer pourquoi M. Macron n'a pas complètement imaginé ce process comme étant un process économique. Mais pour moi, c'est un process économique parce que derrière, en fait, on génère une pérennité même des entreprises autres que celles de l'immobilier. Tout à l'heure, je parlais de celles de l'immobilier, mais c'est toutes celles qui dépendent de ce manque de logement qui aussi sont en perte actuellement d'attractivité du fait du manque de logement.
On pense aux BTP, aux notaires.
Exactement, mais même au-delà, des entreprises qui travaillent dans les énergies nouvelles, etc., qui recrutent énormément et qui ont besoin de loger leurs salariés. Tout ce qui est l'emploi de l'agroalimentaire, c'est la même chose. Donc il nous faut en fait avoir derrière une économie immobilière pour pouvoir accompagner l'économie qui soit du bâtiment, mais aussi qui soit de l'économie de l'agroalimentaire, du boulanger, à tous les niveaux. Il n'y a pas de niveau spécifique, il n'y a pas de niveau plus haut qu'un autre.
Henri, alors vous avez toujours défendu une reconnaissance éthique du bailleur qui prend des risques et qui remplit une fonction sociale. Ce rapport, alors vous l'avez dit, il vous semble à la hauteur de cet enjeu de réhabilitation du bailleur dans le débat public, alors que ce n'était pas toujours le cas en fonction des partis. Est-ce qu'on peut dire que ce rapport, c'est un compromis politique ?
Oui. Alors, il y a un sujet dans le rapport qui fera clivage au plan politique. Et pourtant, économiquement, je trouve très bien que les parlementaires aient indiqué ça. Aujourd'hui, lorsqu'on est assujetti à l'IFI, hein, ouais. Il ne reste plus que ça, hein, la fortune immobilière, les biens locatifs sont également dans l'assiette. Bon. Mm. Et il est proposé que ces biens qui rendent un service, qui
voilà, sortent de l'IFI.
Ouais.
Ce qui est logique.
Oui, on va au bout de cette chose. Alors ça, bon, ce sera clivant.
Ce sera à débattre, ouais.
Bon, et on ne va pas s'en étonner, c'est un sujet très idéologique. Mais tout le reste, oui. Moi, je n'entends pas. On parle beaucoup d'initiatives transpartisanes hein, aujourd'hui. Tant mieux. Pour le logement, la députée le précisait dans le débat tout à l'heure. Pour le logement, on arrive à trouver des axes transpartisans. Je ne vois pas, peut-être suis-je naïf, mais demain, dans le débat parlementaire, un député de la gauche extrême trouver que ce dispositif est scandaleux. Et notamment parce que, Alain Guillemard vient de le dire, dans les territoires, les entreprises ont besoin de loger leurs salariés. Voilà, hein, bon, les filles, par exemple, représentent cette catégorie sociale. Eh bien, qui souffre aujourd'hui de l'absence d'offres locatives dans les territoires, privés ou sociales? Ben, ce sont les salariés, aux premières loges, et les plus modestes d'entre eux. Donc je ne vois pas comment on pourrait trouver que ce dispositif est de droite ou de gauche ou déséquilibré. Il est indispensable.
Alors, on lit dans le rapport que l'investissement locatif privé est passé de 70 000 logements neufs par an à seulement 15 000 en 2025, moins 80%. Est-ce qu'on assiste à une grève de l'investissement? Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez en tant que professionnel de l'immobilier?
C'est pas une grève, c'est simplement une réalité sur le fait que c'est difficile de louer. Il y a le risque de l'impayé, il y a les travaux, il y a les normes, il y a l'étiquette énergétique, il y a le fait qu'en copropriété, il faut pouvoir voter les travaux. Or, on n'est pas le seul décideur. Il y a aussi un certain nombre de taxes et de non-mesures fiscales. C'est pour ça que c'est très intéressant, parce que là, ça va redonner envie d'investir, même si c'est un logement qui est une passoire thermique. Ça va donner envie d'avoir un vrai projet de réhabilitation du logement pour pouvoir loger des gens. Puis loger des gens, c'est un vrai contrat social quand même. Hein. Ouais. Et puis nous, on est chef d'entreprise, donc pour nos salariés, c'est extrêmement intéressant.
Et justement, alors là, vous parlez des professionnels de l'immobilier que vous défendez, que vous représentez. Est-ce qu'ils ont à nouveau foi en ce marché, les professionnels, avec ce rapport? Parce que il faut le dire, c'était quand même compliqué aussi pour les professionnels. On l'a évoqué tout à l'heure hein, concernant l'emploi, mais pour les professionnels de l'immobilier qui sont directement impactés. Est-ce que ça a été très dur pour eux? Est-ce que voilà, ce rapport redonne foi à vous qui êtes au quotidien?
Au niveau des locations, il y a quand même de moins en moins de rotation de location, ouais. Parce que justement, celui qui veut plus grand, il ne trouve pas. Donc du coup, il préfère rester dans son logement. Et puis les primo-accédants, ils étaient quand même un peu retirés du marché. Maintenant, avec les taux de prêts plus bas, et puis quand même les prix qui se sont un petit peu estompés en matière d'augmentation, les prix se sont stabilisés, donc il y a quand même les primo-accédants qui vont revenir. Il y a aussi la belle mesure sur l'éco-PTZ hein, quand même, hein, le PTZ. Oui. Donc ça, c'est intéressant, ça marche. Hein,
qui a bien fait partir, oui.
Ça marche. Donc c'est important.
Il y a eu des chiffres d'un gros réseau d'agences, et c'est vrai que grâce au PTZ, oui, vraiment, ça a reboosté l'accession.
Vous voyez, ça, c'est des mesures chocs hein, qui ont été prises en compte par et voulues par Valérie Létard, et on y est allé. Donc le logement, c'est pas du court terme, c'est du long terme. Or, vous parliez de pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait avant, etc. Ben, c'est parce que quand on est mis du budget, j'imagine qu'on raisonne malheureusement d'une loi de finances à une autre loi de finances, d'une année à une autre année. Et là, ben, on ne va pas constater d'accident de recettes, puisqu'au contraire, on va prévoir qu'il y ait plus de recettes entre le coût de l'amortissement et finalement ce qu'on va récupérer, notamment en termes de TVA. Il va y avoir un solde positif. C'était annoncé 600 millions d'euros en 2026, et puis après, au-delà, 1,9 milliard quand même. Donc, ouais, ça vaut le coup, dans un budget où on a de l'argent à récupérer.
Et c'est intéressant ce que vous disiez, je vais rebondir, parce que ce rapport fait aussi état du lien entre le recul de l'investissement locatif et le blocage des autres opérations, hein, des opérations mixtes, donc le social, l'accession, vous l'avez dit. Donc, on peut dire que c'est tout l'écosystème en fait qui était menacé, et c'est pour ça aussi qu'il fallait redonner confiance aux investisseurs privés.
Oui, alors il y a des simulations qui ont été annoncées dans le rapport que je trouve très conservatrices, comme on dit. C'est-à-dire, je pense que ça peut être encore plus que ça,
ouais.
Notamment si les professionnels marketent hein, les mesures, que ce soit les promoteurs, les agents immobiliers. Il faut un choc. Comme on dit aujourd'hui, hein, un choc d'investissement locatif, il faut aller dire, il vient de sortir le rapport et la loi, si elle est votée, ce sera dans les semaines qui viennent, il faut vraiment vendre hein, au public ces mesures-là. Mais elle devrait agir sur le neuf, et alors notamment parce que les promoteurs aujourd'hui, pourquoi ils ne relancent pas d'opération ? Parce que faut savoir que quand on va se financer à la banque, on est promoteur, on vous demande un taux de pré-commercialisation.
Oui, tout à fait.
Et ceux qui assurent le début de la pré-commercialisation, le fond de sauce, hein, si vous me passez l'expression, c'est les investisseurs.
Oui.
Quand ils sont plus là, eh bien, le
on
promoteur,
pas le minimum.
Il ne contribue pas à l'offre HLM, alors qu'il y a dans les immeubles, il ne contribue pas à l'accession et tout s'arrête. Et on imagine que très vite, on pourrait gagner. Alors on a perdu en effet 40 ou 45 000 opérations par an. Eh bien, dès la première année, on pourrait en reprendre 15 ou 20 000. Mais les chiffres sont à affiner pour moi. Et dans l'existant, même chose. On a perdu probablement un tiers de l'investissement locatif qui, chaque année, représente de l'ordre de 20% des acquisitions dans l'ancien. C'est moins que ça là, depuis 3-4 ans et de manière tendancielle. Donc on va inverser la tendance, on va redonner envie. Voilà, moi je crois que ça, ce qui sort du rapport, si c'est confirmé par la loi, ça donne envie.
Alors moi je vais faire la petite bête, donc c'est vrai que le cœur de la réforme repose sur l'amortissement, hein, on peut le dire, pour tous les logements loués, vous l'avez bien expliqué Daniel, hein, plutôt en longue durée. Alors, est-ce qu'on peut pas dire que c'est une forme de mini LMNP, un mini statut LMNP?
On retrouve effectivement les bases du LMNP qui étaient liées à l'amortissement.
Mais aux locations nues.
Mais là, ce qui est très intéressant pour moi, qui bataille là-dessus depuis des années, c'est qu'on ne raisonne plus meublé contre nu.
Oui.
C'est-à-dire
on
n'oppose
plus les deux.
On n'oppose plus les deux. Là, on raisonne courte et longue durée, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment, et ça a été mon cheval de bataille depuis des années, de dire qu'on soit meublé ou qu'on soit nu. Ce qui compte, c'est qu'on loue à l'année. Donc, si c'est loué à l'année, eh ben là, on distingue réellement les choses de façon différentielle. Après, sur cet amortissement, je vous avoue qu'à titre personnel, je me suis dit, bah tiens, il est plus haut que ce que j'avais prévu, moi, dans mon rapport initial qui m'avait été confié par Elisabeth Borne. Il était plus haut, pourquoi pas ? Parce qu'en fait, il faut aussi qu'il soit en concurrence, entre guillemets, avec ce que l'on peut gagner quand on met sur un compte, une assurance vie. Donc, au bout du compte, si on veut que les gens investissent dans le logement, plutôt que sur l'assurance vie, qui est aussi un bon produit, hein, je ne conteste pas. Mais il faut peut-être donner un booster. Donc après, peut-être qu'il y aura des critères à surajouter, des critères, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, liés à des métiers en tension, si on loue à telle personne, ou sur le niveau de verdissement du logement, à quel niveau on cherche une étiquette énergétique. Enfin voilà, il y aura peut-être des critères, mais sur l'idée, je suis plutôt favorable. Moi, je l'avais cité hein, dans mon rapport. Sauf que, effectivement, mon rapport, moi, on m'avait demandé qu'il soit, en fait, à coût budgétaire neutre. Sauf que moi, il avait un coût budgétaire parce que je n'avais pas intégré, effectivement, les recettes. Et c'est ça qui est très innovant dans ce rapport. C'est qu'ils ont intégré les recettes, en fait, sous-jacentes.
Bien sûr.
Ça change complètement la donne. Et je vous dis, et puis cette notion de raisonnement qui résonne vraiment sur le longue durée, c'est réellement quelque chose qui était très attendu. Qui est en fait la réalité. Au bout d'un moment, il nous faut absolument avoir des logements de longue durée, si possible abordables, avec des bonus, effectivement, quand le prix est en deçà du coût du marché. C'est une bonne réforme, en fait, si on arrive à la mener jusqu'au bout.
Donc, pour vous, il sera assez attractif, assez suffisant. Vous avez cité l'assurance vie. Moi, j'ai aussi envie de citer la flat tax, hein, en parlant des marchés financiers, les SCPI, vers lesquels se sont tournés hein, ces investisseurs particuliers, ces investisseurs privés. Pour vous, ce rapport, il sera suffisant. Enfin, ce que propose ce rapport, en tout cas, sera suffisant pour aller capter.
Alors, je ne l'ai pas eu en entier. Je ne sais pas s'ils ont intégré la notion de flat tax, qui était quand même une réflexion que l'on avait aussi pu avoir au sein des bancs de l'Assemblée nationale, où cette notion de flat tax pour gagner peut-être en simplicité, on va dire avoir un outil qui permet de mieux comprendre la fiscalité. Mais je pense que ce n'était pas l'objet. L'objet était vraiment de mettre en fait au cœur de la réflexion ce que c'était qu'un statut de bailleur privé. avec effectivement le repositionnement comparable à se dire que c'est une entreprise qui investit pour le pays. Et je pense que ça, c'est en sortie de crise comme l'on est. Enfin, j'espère qu'on est en sortie. C'est le souhait qu'on a tous. On a un peu discuté de ça tout à l'heure lors du congrès. Mais il faut réellement se positionner. Est-ce que demain, un investisseur peut être réellement un investisseur et pas simplement un bailleur ? Donc là, il investit, mais il investit au-delà de ça dans un pacte social qui est bien plus important. Donc on l'accompagne dans ce pacte-là avec les risques que l'on connaît, mais aussi avec les bénéfices.
J'aimerais rebondir sur ce que vous disiez. Donc, vous l'avez dit, le rapport insiste vraiment sur le fait que cette réforme serait bénéfique pour les finances publiques. C'est ça la nouveauté, avec un gain estimé à 1,9 milliard d'euros à horizon 2030. Donc là, on parle vraiment de sommes colossales, ce qui est non négligeable quand on connaît la dette de la France. Est-ce que les chiffres, question de journaliste, mais est-ce que les chiffres sont solides ? Faut-il y croire ? Et est-ce que ils vont pas être dézingués dans quelques jours par l'opposition ?
Enfin, moi je dirais que les deux parlementaires qui ont travaillé avec des inspecteurs généraux de l'équipement, en liaison avec Bercy, tout ça ne s'est pas fait sur un coin de table. Ils ont travaillé vite, mais de manière approfondie. Ce sont des gens sérieux, voilà. Alors, les querelles de chiffres, on n'y échappe jamais.
Bien sûr.
Et bien évidemment, on va y avoir, mais on va y avoir droit. Mais on va se battre peut-être sur le détail. Je n'imagine pas qu'on puisse mettre à bas, dans les grandes lignes, ces simulations. Elles sont sérieuses. Et effectivement, la députée le dit, c'est innovant, parce que d'habitude, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un discours, dans tous les débats, on dit quand même, c'est scandaleux, regardez, sur une année, le logement rapporte 92 milliards, etc. Bon. Là, dès la négociation, et parce qu'on est sous forte contrainte budgétaire, pour être tout à fait clair, le Premier ministre l'a exigé, c'est-à-dire qu'une copie ministérielle, si elle ne fait pas ce travail-là, faut oublier. Voilà. Donc c'est vous arrivez devant le directeur financier de l'entreprise, vous dites voilà, il me faut tel équipement, voilà ce que ça va rapporter sur le chiffre d'affaires. C'est exactement ça. Donc le travail a été fait de manière je dirais maligne dans la négociation. C'est pas pour ça que c'est gagné, mais à mon avis on s'en sortira mieux que si ce travail n'avait pas été fait. Voilà.
Est-ce que vous avez eu bruit de la réaction d'Emmanuel Macron face à ce rapport ? Est-ce que vous qui êtes dans les hautes sphères...
Il a peut-être appelé Annaïk Le Meur, moi il m'a
peut-être un Annaïk qui peut nous dire.
Est-ce que vous avez entendu, je ne sais pas, des bruits de couloir ?
Non, je ne sais pas.
Par rapport à son opinion sur ce rapport ?
Honnêtement, j'ai eu aucun retour. Maintenant, il sait quand même que notre engagement à tous... Je veux dire, on lui a fait des reproches là-dessus, mais il faut dépasser ça. Depuis des années, il le sait qu'on est sur ce sujet et qu'on est tous liés, en fait, à ce sujet. Donc, moi, c'est vrai que de revenir à chaque fois sur ce qu'il en pense ou autre, c'est quelqu'un qui a bien conscience du positionnement et de l'état de notre pays, notamment des citoyens actuellement qui sont en détresse vis-à-vis du logement. Donc, je ne sais pas ce qu'il en dira point par point, mais il y a un moment où je pense qu'il y a une conscience globale que le logement est devenu, en fait, le sujet majeur de la crise. Donc, il n'ignore pas ce sujet-là, et ça, je peux vous le garantir. Maintenant, sur le rapport proprement dit, on va peut-être laisser le temps aussi qu'il puisse s'en imprégner et avoir des retours, en fait, de chacun. Et on peut tous y contribuer, je pense, pour montrer que, voilà, pour une fois, le logement, il est positionné aussi comme une source de recettes et pas qu'une source de dépenses. Et que du coup, l'intérêt, c'est un intérêt social avant tout. Et il faut vraiment le pointer du doigt. C'est des alertes que j'avais déjà émises. Là, on est vraiment dans le concret et je pense qu'on peut y arriver. Il y a des solutions qui sont proposées, qui ont déjà été proposées plusieurs fois au Parlement et qui trouveront, je pense, pour une fois, leur issue sur le PLF 2026.
Alors, Daniel, on espère, pour finir, que cette réforme sera adoptée dans le PLF 2026. Quels sont vos souhaits plus globalement ?
Que 99% du rapport soit pris en compte par M. Lombard. C'est un contrat d'objectif. Moi, je considère ça comme un contrat d'objectif. Il faut donner les moyens aux investisseurs d'investir, charge aux professionnels de faire connaître le statut, de faire connaître les dispositions fiscales, de les inciter à acheter, de leur présenter des produits. Il y a une simulation qui me paraît une simulation réaliste, peut-être même en dessous peut-être un peu pessimiste,
mesuré,
mais tant mieux,
en fait,
mesuré, ouais, équilibré. Ouais, et il faut vraiment faire confiance. Il faut faire confiance. Le propriétaire, il a envie d'investir quand même. Hein. La notion de pierre, c'est quelque chose qui est dans la tête des gens pour la transmission du patrimoine, etc. Donc ils vont y aller plutôt que d'épargner. Et on épargne trop en ce moment. Donc utilisons cette épargne. Les professionnels de l'immobilier seront là. Et c'est un contrat d'objectif que je considère entre l'État et finalement le citoyen.
Eh bien voilà, ce sera les mots de la fin. Utilisons cette épargne, il y en a trop. Merci beaucoup à vous trois pour cette table ronde. Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants, et je crois que je me trompe de caméra, on se retrouve dans quelques instants en direct du pavillon Dauphine pour les rendez-vous de l'UNIS. À tout de suite.
Les rendez-vous de l'UNIS en partenariat avec Accès au Drieux Combalusier et Bâti Santé sur Radio Immo.